Je pense que la peur ultime, c'est la peur de mourir. Donc, une fois qu'on a été confronté à cette peur-là, on n'a pas envie de la revivre. Ou on a tendance à aller se replonger un peu dans la même situation comme pour régler les problèmes avec la peur, je ne sais pas.
Vous avez eu vraiment peur de mourir?
Oui. Et ça, c'est un sentiment extrêmement désagréable. Et je serais prête à tout vendre ma mère, que Dieu ait son âme, pour ne pas revivre cette peur-là.
Bonjour à tous, bienvenue à un nouvel épisode de Contact que vous pouvez voir si vous êtes avec nous grâce à YouTube ou que vous pouvez écouter sur une de vos plateformes préférées. Je vous invite d'ailleurs à nous donner une note, une bonne si c'est possible, si vous êtes satisfait, parce que ça aide à notre référencement. Parlons de notre invitée et voici ce que l'on disait d'elle lorsqu'elle a reçu l'Ordre du Mérite en 2022, ordre décerné par l'Université de Montréal. J'ouvre les guillemets, téméraire, passionnée, ouverte, empathique, résiliente et modeste. Elle a traversé maintes frontières pendant 3 décennies pour couvrir les pires conflits, du génocide de Rwanda à la révolution en Égypte, en passant par les guerres en Afghanistan, en Syrie, en Iran et au Pakistan. Michèle Ouimet, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, a été pendant près de 30 ans journaliste à la presse, quotidien montréalais. Bonjour, Michèle Ouimet.
Bonjour, Stéphane.
Pendant près de 30 ans, parce que la carrière est aujourd'hui terminée.
À la presse.
C'est de celle-là que je parlais, puisque le processus, lui, n'est pas terminé. Vous écrivez encore des livres.
Oui.
Vous avez encore des passions.
Oui.
La guerre est terriblement d'actualité, malheureusement, comme elle l'a toujours été à toutes les époques. Regrettez-vous, Michèle, de ne pas pouvoir être en Ukraine aujourd'hui?
Oui, c'est sûr. Quand je vois la crise économique au Liban, j'aimerais être là parce que j'ai été plusieurs fois au Liban, j'aurais aimé couvrir l'Ukraine, mais tout ça reste théorique parce que je suis pas certaine que je pourrais encore supporter ce stress-là. T'sais, j'ai vieilli quand même, ça use, alors ça m'a usé. J'ai quand même payé un prix assez élevé, là. J'ai eu des hernies discales importantes et puis je pense aussi qu'en vieillissant, la capacité à prendre le stress diminue et je pense que ma capacité à prendre le stress a diminué. Oui, probablement, je pourrais y retourner, j'aimerais y retourner, mais ça reste théorique.
Mais j'aime cette ouverture qui pourrait ressembler à un aveu de ce que le temps fait son ouvrage, son œuvre. Et c'est vrai sur tout le monde, sur tous les gens qui ont un métier. Correspondant de guerre, c'est un peu différent. Alors, nous y reviendrons rapidement, mais au départ, est-ce que vous aviez ambition à être correspondante de guerre?
Pas du tout. Alors, j'ai souvent dit que entre la guerre et moi, il y a comme un malentendu. Premièrement, je ne connais rien à tout ce qui est opération militaire. De toute façon, ça m'ennuie pour mourir. Ce qu'une armée dit, on peut difficilement le comparer. Comme en Afghanistan, je n'avais pas accès aux talibans. Hein. Alors, si on me disait que l'armée canadienne avait tué, je ne sais pas moi, 100 talibans.
Impossible à valider avec les talibans.
Impossible à vérifier. Et puis aussi, ce qui était particulier en Afghanistan, c'est que c'était la guerre de mon pays. Alors ça, c'était délicat parce que je me faisais accuser de saboter l'effort de guerre du Canada. Donc, c'est compliqué à couvrir une guerre. Moi, ce qui m'intéressait dans
Mais toutes les guerres sont compliquées à couvrir parce que la première victime, c'est toujours la vérité ou l'information qu'on veut contrôler quand on est parti de la guerre.
Mais la guerre au Liban, par exemple, en 2006, que j'ai couvert contre Israël, on pouvait aller chercher le point de vue israélien et le point de vue libanais. Donc, c'était plus facile. Et je n'étais pas non plus impliquée. Mon pays n'était pas impliqué. Donc, un malentendu entre la guerre et moi parce que j'ai jamais eu l'ambition de devenir, et d'ailleurs, je n'ai jamais été vraiment correspondante de guerre. Alors, c'est plus par accident que j'ai été en Afghanistan première fois en 96.
Sous les talibans. Il y a eu le Rwanda en 94.
Il y a eu le Rwanda. Ça a été très traumatisant, là, mais c'était comme une guerre civile. Ça a été ma première expérience. J'avais jamais vu de cadavre de ma vie, sauf bien embaumé, qui sentait rien, et puis je me suis ramassée au Rwanda. C'était trop. Alors, j'ai été vraiment traumatisée. Je pense que j'ai eu un choc post-traumatique. Jamais.
Je pense. Vous en
parce que
je n'ai
jamais été diagnostiquée comme telle, mais j'avais plusieurs symptômes. Donc, j'ai jamais eu cette ambition-là, mais j'ai toujours voulu aller ailleurs, voir ailleurs. Mais je ne me suis jamais dit, moi, je vais être une correspondante de guerre. Alors, j'ai couvert les guerres, mais je n'étais pas une correspondante comme, par exemple, Marie-Ève Bédard, postée à quelque part. Je partais, je revenais, je partais, je revenais de Montréal. Donc, j'allais sur un terrain de guerre peut-être une, deux fois, trois fois par année. Ça dépendait des années. Donc,
mais c'est déjà beaucoup par rapport à la moyenne des gens qui nous écoutent, qui ne sont pas familiers avec ce que c'est que de se retrouver en zone de guerre. Parlons de cohabiter avec la mort et avec des cadavres, parce que l'expérience initiatrice, le premier grand moment pour vous, c'est probablement le Rwanda en 94, une guerre civile. Mais d'autant plus, je dirais, déconcertante que c'est des voisins souvent qui s'entretuent. Est-ce qu'on n'est jamais préparé à ce que vous allez découvrir?
Non, je pense qu'on n'est pas prêt. Et moi, j'étais encore moins prête parce que j'avais pas d'expérience. Alors, mon manque d'expérience a fait que j'étais pas prête. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Mais il faut dire que je suis partie rapidement, hein. Les avions, l'avion où étaient les deux présidents, le président du Rwanda et le président du Burundi, ont été abattus. L'avion a été abattu le 6 avril et ça a été l'élément déclencheur du génocide. Et moi, je suis arrivée comme trois semaines plus tard. On parlait déjà de 200 000, peut-être 300 000 morts. Il y en a 800 000 en tout. Puis les tueries ont duré jusqu'au mois de juillet, donc pendant 3-4 mois. Donc, et je n'osais pas utiliser le mot génocide parce que on commençait à en parler, mais on savait pas trop. Mais j'ai vu beaucoup de cadavres. Et ce que j'ai vu aussi, c'est les cadavres tout en alignés dans un village. On voyait que les gens, on les avait obligés à se mettre en ligne et on les avait abattus et dépecés. Donc ils étaient là les cadavres depuis peut-être deux semaines, donc sous le ciel d'Afrique avec la chaleur. Alors on imagine la moitié décomposée. Alors et aussi ce qu'on oublie souvent dans les guerres, c'est la logistique. Comment nous, comme journalistes, on est happés par la logistique. Comment je me déplace? Où je vais dormir? Comment je vais transmettre? Qu'est-ce que je vais manger? Tout ça, là, ça nous bouffe, là, je dirais, le deux tiers du temps. Et l'autre tiers, ben là, on écrit, puis on fait des reportages, puis on fait des entrevues. Et moi, c'était une époque où il n'y avait pas de cellulaire. Alors, je vivais un grand isolement aussi.
Dans un contexte qui ne peut qu'être anxiogène.
Le stress, là, j'en ai eu des doses et des doses. En fait, j'ai eu trop de stress, je pense, dans ma vie. Mais et je voyageais, je dirais, peut-être 80 % du temps, j'étais seule. Tu sais, je partais seule, tandis que je voyais mes collègues de la télé, ils étaient en équipe, ils pouvaient parler, ils pouvaient échanger.
On est deux, trois, il y a un perchiste, il y a un caméraman.
C'est ça, moi j'étais toute seule. Non? Des fois, je faisais un petit peu pitié. Là. Les collègues étaient vraiment gentils avec moi, je pense qu'ils me prenaient en...
Collègues d'ailleurs pas que canadiens, parce qu'il y a une espèce de solidarité qui est celle des journalistes qui se retrouvent dans de pareilles circonstances.
Beaucoup des Américains, des Britanniques, des Français, qui ont des grands moyens. Et moi, souvent, j'étais dans un hôtel, j'allais à la salle à manger pour voir si les collègues étaient là pour leur dire, avez-vous été là? Est-ce que c'est dangereux? Comment se déplacer? Tu sais, je vous dis, la logistique nous bouffe beaucoup, beaucoup de temps.
Et il faut pas sous-estimer que pour arriver à écrire un article, il faut d'abord créer les conditions où on peut l'écrire et où on peut ensuite se préoccuper d'aller chercher l'information.
Et transmettre.
À une époque, c'était plus compliqué.
C'est un défi, oui.
Et encore aujourd'hui, ça peut être un défi. Je disais, la première victime quand on est en zone de conflit, c'est la vérité, parce que tout le monde se la dispute et tout le monde veut influencer la guerre de l'information. C'est vrai en Ukraine aujourd'hui, certainement. Ce l'était au Rwanda. Puis on peut encore se poser des questions aujourd'hui sur la vérité. Comment on fait seul, manipulable, à la merci de gens qu'on ne connaît pas et des fois d'enjeux très complexes. Mm-hmm. Le conflit entre les Hutus et les Tutsis, même quand on est un peu initié, ça demeure extraordinairement difficile. Oui. Comment fait-on pour accoucher de quelque chose quotidiennement dans le feu de l'action et dans l'anxiété qui soit cohérent et qui corresponde un peu à ce que pourrait être, non pas la vérité, mais le réel?
Je fais une distinction. Oui, mais c'est une excellente question qui est très pertinente parce qu'on se bute là-dessus tous les jours sur le terrain. Alors, j'ai couvert la chute de Moubarak en Égypte et Moubarak avait coupé l'Internet. Alors, j'étais comme une aveugle, là, parce que je m'étais quand même habituée à Internet. Dieu merci, je ne retournerai pas à l'époque où on n'avait pas d'Internet et pas de téléphone cellulaire. Alors, se faire couper l'Internet, c'est comme marcher comme une aveugle. Tout ce que tu vois, c'est ton petit bout de terrain, ce que tu as vu, puis tu n'as pas le portrait global. Mm-hmm. Et donc, j'avais un mini-satellite, je devais me brancher. On était à peu près 2000 journalistes à essayer de se brancher sur à peu près les mêmes satellites, alors ça bloquait. Mais moi, ce que je me disais, C'est que, premièrement, je ne partais pas dans des grandes analyses. Ça, c'est les gens à Montréal qui pouvaient le faire. Ce que je faisais,
c'est que... À distance.
À distance. Moi, j'étais sur le terrain. Ce que je faisais, c'était ce que je voyais. Et je multipliais les entrevues. Ça faisait 15 fois, 15 personnes qui me disaient la même chose. Je me disais, j'ai un début de vérité. J'ai un début. Alors, c'est ce que j'écrivais. Mais je ne faisais pas d'extrapolation. Comme
un réel tangible, en tout cas.
Oui. Alors, oui, les témoignages se multipliaient. Oui, j'ai été violée. Oui, un tel a été massacré. Ma famille. Alors, quand ça se multiplie, c'est là qu'on s'approche de la vérité et c'est ce que j'écrivais. Mais je restais souvent au ras des pâquerettes. Je faisais attention parce que, oui, effectivement, c'est difficile de savoir. Les Hutus ont massacré les Tutsis, mais je me suis rendu compte qu'il y avait plein de Hutus modérés qui, eux, étaient prêts à partager le pouvoir avec la minorité Tutsi, qui, eux aussi, étaient massacrés. Et je voyais des Hutus modérés dans les camps de réfugiés qui avaient fui les massacres. Donc, des fois, la vérité est plus complexe qu'on pense.
Ben, à commencer par une de vos collègues, Judy River, je pense, qui, elle, dit, écoutez, il y a eu effectivement un massacre des Tutsis par les Hutus, mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi d'autres formes de génocide? Et poser la question est extrêmement difficile.
Oui, mais je pense qu'il ne faut pas non plus aller dans l'autre extrême et tout relativiser. Tu sais. Oui, mais peut-être aussi que pendant le génocide, les Hutus, il y a eu des Hutus extrémistes qui ont massacré. Mm-hmm. Bon, ça, c'est un fait. Et moi, je l'ai vu dans le petit village de Rukara. Mais c'était des extrémistes. Et tous les Hutus ne sont pas des extrémistes. Mais de là à dire que les Hutus ont été massacrés, bon, après ça, quand les Tutsis ont pris le pouvoir, les Hutus ont fui parce que les génocidaires, ils avaient peur d'être massacrés à leur tour.
Évidemment,
ça, oui.
On peut le comprendre.
Mais il ne faut pas dire non plus que tout relativiser et au nom d'une certaine vérité, dire « Ah oui, mais peut-être que les Hutus aussi ont été massacrés. » Non, je pense qu'au Rwanda, les Hutus extrémistes ont... massacrer les Tutsis et les Hutus modérés qui étaient prêts à partager le pouvoir aux Tutsis. Ça, je pense qu'on peut dire que c'est une vérité.
Mais quand on est sur place, donc quand vous
c'est
arrivez...
C'est très difficile parce que moi, ça faisait quoi? Peut-être 3-4 semaines que les massacres avaient commencé. Donc pour moi, c'était comme un peu confus. Là. Mais il y a toujours une certaine confusion.
Il y a un stress de ne pas traduire ce qui se passe réellement, d'autant que ce que vous avez comme moyen, c'est votre expérience sensible. C'est ce que vous voyez, c'est les entrevues que vous faites, c'est ce qu'on vous demande de valider, c'est ce qu'on demande aux correspondants de faire, c'est de nous raconter ce qui est indicible à distance, l'expérience du territoire.
Et si j'ai des doutes, je ne publie pas. Comme j'ai été deux fois en Syrie pendant la guerre civile, ça c'est un autre grand bordel, là. Je pense que c'est probablement le conflit le plus complexe que j'ai couvert. Parce que comme disait Carla Del Ponte, qui a été au tribunal de je ne sais plus trop quoi, elle disait, le problème en Syrie, c'est qu'il n'y a plus que des méchants. D'un côté les djihadistes, de l'autre côté Bachar al-Assad. Comment tu fais pour te démêler avec tout ça? Et moi, comme femme, je devais interviewer des djihadistes qui me demandaient d'être voilée de la tête aux pieds, de ne pas les regarder, de ne pas serrer la main, d'être humble. Bon, donc c'était très compliqué. Et aussi voyager. Quand on voyage et qu'on se déplace dans un pays en guerre, c'est difficile. Parfois, on peut se déplacer seul avec un fixeur. D'autres fois, c'est pas possible puis il faut voyager avec une des armées. Donc, c'est pire. Le danger d'être manipulé est encore plus grand parce qu'on voyage avec une armée. Donc, j'avais été avec l'armée syrienne libre, qui était l'armée des rebelles laïques, plus laïques. Et ils nous avaient amenés un soir à 11h. Ils nous avaient réveillés vite, comme. Il y a eu un massacre. Et là, ils nous avaient amenés en ville. J'avais rien compris. Premièrement, je trouvais ça extrêmement dangereux. Ils nous avaient embarqués dans un pick-up. Ils nous avaient montré des cadavres. Puis ils avaient dit, regardez, c'est Bachar al-Assad qui a fait ça puis qui a massacré.
Et c'est impossible à valider.
Alors, moi, j'ai rien écrit. Je trouvais que le photographe avec qui j'étais avec un photographe, il avait pris des photos. Je dis, moi, j'écris pas un mot là-dessus. Parce que premièrement, je comprends rien. Pourquoi il nous réveille à 11h le soir? Il nous amène dans la noirceur, voir supposément trois cadavres que Bachar al-Assad aurait massacré. Je veux bien. Oui, Bachar al-Assad a massacré beaucoup de gens, mais a-t-il massacré? Je soupçonnais qu'il y avait une mise en scène. Je dis, moi, j'écris pas. Alors, on a cette obligation morale et aussi cette possibilité de ne pas publier quand on a des doutes.
Ben en fait, c'est même, je dirais, une nécessité on a un doute de
mais
se
retenir. Mais des de la pression, il faut écrire, tu sais. Alors, on peut tasser. Moi, ça me prend. J'ai rien.
J'ai besoin d'une histoire.
J'ai les mains vides aujourd'hui, oui.
J'ai les mains vides, mais il faut avoir donc la capacité de résister à celui qui demande son dû.
Oui.
À Montréal ou à Paris ou ailleurs, en disant, t'es là, raconte-nous quelque chose.
Oui.
Parce qu'il y a un coût lié à une opération.
Ça coûte cher. Les fixeurs, ça coûte une fortune, là.
Et il y a les assurances, en fait, tout ce qui vient avec l'idée d'envoyer des correspondants pour nous raconter quelque chose qu'on ne saurait pas autrement.
Oui, c'est ça.
Et donc aussi produire, parce qu'il faut rentabiliser l'opération.
Ouais. Mais la presse a toujours été correcte là-dessus. T'sais, il me disait, c'est toi qui es sur le terrain, tu le sais. Des fois, j'avais des doutes, mais je ne pouvais que jongler avec moi-même ou avec les correspondants, les journalistes étrangers que je voyais sur le terrain. Mais Montréal, ils n'étaient pas là, là. C'était difficile pour eux. Mais ils me disaient tout le temps, sois prudente, fais attention, repose-toi. Et ça, cette pression-là, c'est moi qui me mettais cette pression-là.
Vous connaissez des guerres où il est facile de dire il y a des bons et des méchants, parce que vous dites en Syrie, c'est la pire des guerres. Ils sont tous plus ou moins méchants. J'ai beaucoup de difficultés à imaginer qu'on puisse réduire un conflit à des bons d'un côté et des méchants de l'autre. C'est une vision manichéenne, en fait, moi, qui me semble difficile, non pas parce qu'on ne peut pas tirer des conclusions, et je ne vous amènerai pas là où vous n'êtes pas allé, en Ukraine. Clairement, il y a un agresseur, la Russie.
Oui.
Et il y a un pays agressé, l'Ukraine.
Oui.
Aucun doute là-dessus.
Oui.
Une fois que c'est dit, il y a un contexte qui est extraordinairement complexe aussi.
Oui, il y a 50 nuances de gris, là, on s'entend.
Puis il y en a peut-être 58, 59.
Et c'est toujours comme ça dans les conflits. Sauf qu'en Syrie, c'était particulièrement... parce qu'au début, le but était noble, c'est-à-dire renverser un dictateur, Bachar al-Assad, de père en fils, parce que son fils était là depuis, son père Hafez al-Assad était là depuis 1970. Bachar al-Assad a pris, puis on connaît, il y avait une police secrète, il emprisonnait, il torturait, et le peuple a voulu se révolter dans la foulée des printemps arabes. Donc, oui, il y avait comme des bons d'un côté, la démocratie, les valeurs, et les méchants, c'est-à-dire Bachar al-Assad et sa machine à emprisonner, à torturer, etc. Mais là, les djihadistes ont débarqué. Et là, le conflit est devenu extrêmement brouillé. Il y avait peut-être une centaine de groupes djihadistes. Une chatte en aurait perdu ses petits. Là. Moi, je voyais plein de groupes djihadistes que je ne connaissais ni d'Eve ni d'Adam.
Qui entre eux ne se connaissent peut-être pas davantage.
Et où ils sont en conflit. Ils se battent entre eux. Et aussi, ils se battent contre Bachar al-Assad. Et puis là, il y avait les États-Unis. Et puis, il y avait les Russes, le Hezbollah. C'était vraiment immensément compliqué. Et c'est pour ça que Carla De Ponte a dit il n'y a plus que des méchants. Qui veulent détruire, en fait, et celui qui est pris en otage, c'est le peuple. Et Dieu sait que les Syriens ont...
Comme les Irakiens l'ont été.
Souffert, oui.
D'un conflit qu'ils n'avaient pas réclamé.
Mais c'est tout le temps ça, les civils qui souffrent. Et c'est pour ça que moi, dans une guerre, dans un conflit, c'est ça qui m'intéresse. C'est les civils. En Afghanistan, c'était les civils qui m'intéressaient. L'impact sur les civils, l'impact sur les femmes aussi. À chaque fois, j'essaie d'écrire sur les femmes dans un pays, parce que c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup.
Parce qu'elles souffrent différemment ou autrement?
Mais dans des pays... Moi, j'ai fait beaucoup de pays musulmans. Alors, souvent, elles ont moins de droits que les hommes. Elles doivent regarder les femmes actuellement en Afghanistan qui doivent se battre. Et les hommes afghans en souffrent parce qu'ils n'aiment pas ça de voir leurs filles qui ne peuvent pas aller à l'école, leurs femmes qui ne peuvent pas travailler. Alors, les hommes aussi en souffrent. Mais les femmes particulièrement, elles n'ont pas accès à l'université, elles n'ont pas accès à l'école. Donc... Oui.
Mais ça me semble assez inexorable, par exemple, l'Afghanistan. C'est une guerre qui a été livrée au départ par les Américains parce qu'ils voulaient leur faire payer le prix de leur complicité dans les attentats. Ils voulaient Ben Laden. Ensuite, c'est une guerre où on a modulé le discours pour dire on va en profiter pour amener la démocratie, libérer les femmes, les jeunes filles.
C'est une guerre juste.
Une guerre juste. Avec tous les dommages collatéraux qui viennent avec une guerre juste. Puis éventuellement, c'était une guerre juste trop longue, et ils sont partis. Et soudainement, tous les idéaux pour lesquels, apparemment, on s'était battu, les Canadiens, les Américains, pesaient plus aussi lourd dans la balance. Et ces femmes, ces fillettes, dont les destins nous intéressaient tellement, nous intéressent moins. Et je me dis donc, pourquoi? Et au départ... Avons-nous vocation à sauver ces pays d'eux-mêmes? Est-ce qu'on avait vocation à sauver l'Irak, les Libyens? Parce que la pire des réponses, celle qui me fait peur, c'est des Libyens qui disent peut-être qu'on était mieux à l'époque de Kadhafi. Le régime était terrible, mais il n'y avait pas le chaos que nous vivons aujourd'hui.
Mais c'est une autre sorte de chaos. C'est un pays, des pays qui n'avaient pas de démocratie, qui emprisonnaient, où il n'y avait pas de... L'opposition n'était pas tolérée. C'était des dictatures. Donc, on ne peut pas comparer un pire choix avec un pire choix. Mais je pense qu'en Afghanistan, les Américains, ce qu'ils voulaient, c'est Ben Laden. Ils l'ont eu, finalement, en 2011. Ils l'ont abattu.
Au Pakistan, d'ailleurs.
Au Pakistan, Abbottabad. Et j'ai été à Abbottabad. Je suis arrivée, je pense, 4 jours après que Ben Laden ait été assassiné, parce que c'est ça qu'ils ont fait. Ils auraient pu le capturer, mais ils l'ont assassiné. Il n'y avait pas de veste explosive, là. Mais ils ne voulaient pas faire un procès à Ben Laden, parce qu'ils auraient... Bon, et les Américains...
Ils ne voulaient pas vivre avec la patate chaude sans méchanceté, ouais. Là.
Non, mais ils ne voulaient pas non plus que Ben Laden témoigne, là. Ils ne voulaient pas d'un procès. Ça, c'est clair. Et ils ont balancé son corps...
À la mer.
À la mer. Et ils sont partis de Jalalabad en Afghanistan. Ils sont passés sous le radar pour ne pas que les Pakistanais puissent détecter les hélicoptères qui s'en venaient à Abbottabad, qui est une ville de garnison, là, où il y a plein de soldats pakistanais. Donc, c'est un pied de nez aux Pakistanais qui étaient extrêmement fâchés. Ils ont fait ce raid-là dans la villa, ils ont tué Ben Laden, ils ont pris son corps, puis ils sont repartis en hélicoptère. Donc, c'était un raid, c'était une opération. Et finalement, ils ont eu ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire Ben Laden. Quant à la démocratie, tout le monde, tous les experts disaient, jamais dans un pays aussi complexe, vous réussirez à implanter une démocratie. Ça prendrait 50 ans, 100 ans. Et de toute façon, les Afghans ont une démocratie à leur manière, avec l'Oya Jirga, c'est-à-dire les grandes assemblées.
Leurs assemblées, oui.
Et ils ont une forme de démocratie qui n'est pas la démocratie occidentale. Mais bon, l'Afghanistan, ils sont en conflit depuis 1979, depuis l'invasion des Russes. C'est ça, c'est un pays qui a souffert, une population qui a souffert, c'est bien les Afghans.
Mais la question demeure, peut-on imposer nos valeurs, ce qu'on pense être la démocratie, à des pays malgré eux?
C'est une grande question parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un devoir d'ingérence? C'est-à-dire que si un pays...
Avez-vous de meilleures... En fait, dans le fond, si je vous pose la question, c'est pensez-vous avoir une meilleure réponse aujourd'hui que vous avez été témoin de ça?
Non.
Parce que j'en ai pas non plus de réponse.
Non, mais par contre, si un pays massacre sa population, il ferme ses frontières, dit « foutez-moi la paix, moi je massacre ma population », on fait rien? Est-ce qu'il n'y a pas un devoir d'ingérence d'empêcher ces massacres-là? Mais si on débarque...
Mais qui est l'arbitre de cette frontière?
Et qui est le gendarme du monde? Et souvent, quand les Occidentaux interviennent, ils font plus de dégâts que ce qu'ils voulaient réparer. Mais en même temps, est-ce qu'on peut se croiser les bras et dire « Oh non, nous, on n'intervient pas parce que si on intervient, ça va faire des dégâts et on laisse, je ne sais pas moi, un tyran ou un dictateur massacrer sa population et on se ferme les yeux? »
Mais on le fait tant et aussi longtemps que ça faisait notre affaire.
Oui, mais est-ce que c'est correct de le faire? Moi, je pense que non. Mais est-ce qu'on peut intervenir? Est-ce qu'il faut intervenir? Oui, mais intervenir comment sans causer encore plus de dégâts? Parce que souvent, les Occidentaux, quand ils débarquent, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ça fait plein de dégâts. Est-ce qu'on peut ne pas intervenir et laisser un dictateur massacrer sa population? Ça aussi, c'est une question qui se pose. Mais moi, je n'ai pas de réponse.
Vous n'avez pas de réponse davantage que vous en aviez avant de fréquenter ces zones de conflit?
Non, je pense que j'ai encore plus de questions que je n'en avais.
Parce que les dommages collatéraux dont vous parlez, ils sont réels.
Oui, absolument.
La guerre en Irak, c'est probablement 5 ou 6 000 militaires américains morts.
Mais c'est une guerre qui était basée sur le mensonge. Les armes de destruction massive n'existaient pas.
Je vous dirais même que c'était une conspiration organisée en haut lieu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui savaient très... Non, mais des gens qui savaient très bien qu'ils nous mentaient.
Et Powell a toujours regretté sa déclaration qu'il avait faite.
Aux Nations Unies.
Oui, où il disait, regardez, voyez, il y a des armes de destruction massive. Les gens regardaient, puis où ça? Mais personne ne vous a dit, ben non, il n'y en a pas d'armes de destruction massive. Et c'est sur ce mensonge-là que les Américains sont intervenus. Mais c'est une intervention qui n'a pas été avalisée par l'ONU, contrairement à l'intervention en Afghanistan, où l'OTAN est intervenue et tout ça, parce qu'on disait que c'était, on voulait amener la démocratie. Bon, je ne sais pas. C'est troublant, là, tout ça, mais...
Ben, vous savez pas, mais dans les faits, effectivement, on n'est plus là. Et les jeunes femmes, les jeunes filles que vous avez croisées plus d'une fois, vous êtes allées, je pense, 7 fois en Afghanistan.
7 ou 8 fois, je me souviens plus. Là.
Leur sort, de notre point de vue à nous, en tout cas, est certainement pas meilleur aujourd'hui qu'il l'était il y a 15 ou 20 ans.
Mais moi, c'est de voir le retrait en désordre, vraiment un retrait crève-cœur. Et puis moi, j'ai préparé un balado pour Radio-Canada sur les interprètes afghans. Alors, j'ai vraiment vécu ça de façon extrêmement... intense, parce que là, je parlais à mes interprètes qui ont travaillé pour l'armée canadienne des Afghans à tous les jours, 7 jours par semaine.
Pendant que s'organisait la retraite.
Pendant que les talibans prenaient le pouvoir, parce que moi, j'ai commencé en mai, les talibans ont pris le pouvoir le 15 août, et le balado a été sur le web le 8 septembre. Donc, j'ai vu ça là, de façon extrêmement intense. Et ce retrait crève-cœur, dans un désordre absolument inimaginable. Et la prise de pouvoir comme ça par les talibans, ils ont pris le pays, là, tout s'est effondré comme un château de cartes. Ça montre à quel point la corruption était importante, comment ce gouvernement-là, qui est un gouvernement pro-occidental, n'était pas proche de la population. Tout le monde est parti, puis on les a abandonnés encore une fois. Là. On a abandonné les Afghans.
C'est cynique?
C'est pas cynique, c'est triste. On les a abandonnés je pense que l'Occident n'a pas compris la complexité de l'Afghanistan.
Alors, est-ce que l'alternative aurait été que collectivement, Américains, Canadiens, Européens, restions sur place?
Ils seraient restés pendant 20 ans, 30 ans.
Sans que rien ne change?
Bien, c'est parce qu'il ne faut pas oublier aussi que l'argent, les Occidentaux ont investi des milliards et ça a dopé l'économie, mais ça a aussi nourri
la corruption.
Ah, ça nourrit la corruption de façon absolument inimaginable. C'est quoi la solution? Je ne sais pas. Mais ça, c'est ce qui est arrivé. Alors, ce gouvernement-là était corrompu. Et là, les Afghans, les talibans ont cueilli le pouvoir comme ça. Et ils ont fait comme en 96. Moi, je les avais vus en 96. Et puis, tous les matins, il fallait que je me présente au ministère de l'Information. Puis, j'allais m'agenouiller devant un mollah pour lui dire ce que je voulais faire. C'était le contrôle absolu, là. Et j'ai été 2 semaines en Afghanistan, j'ai eu 2 semaines à avoir peur. Là. J'ai passé 2 semaines à avoir peur parce que j'étais toute seule.
Plus en Afghanistan qu'ailleurs?
Mais c'est-à-dire en Afghanistan, je me sentais premièrement tellement loin. J'avais pas de téléphone cellulaire. Je ne pouvais pas communiquer avec personne. J'étais tout le temps espionnée par les talibans parce que j'étais la seule journaliste occidentale. Les talibans ont pris le pouvoir en septembre. Moi, je suis arrivée en décembre. Donc, il n'y avait plus de journalistes. Il y avait juste moi à espionner, là. Puis, je n'étais pas capable de faire mon travail parce qu'il disait pas droit de prendre de photos, pas droit de parler aux Afghans, pas droit de faire d'entrevue. Fait qu'il a fallu que je triche. Mais en trichant, je risquais de me faire prendre, d'être emprisonnée et de mettre les Afghans qui acceptaient de me parler en secret en danger. Ça, c'est un autre défi aussi pour des
journalistes. C'est-à-dire de devenir soi-même responsable de ce qu'on met la vie d'autres gens en danger pour faire son travail.
Il faut faire attention à ça. C'est comme avec nos fixeurs, là, les journalistes qui travaillent pour nous, là, qui sont extrêmement importants, nos traducteurs. Mm-hmm. Des fois, on les met en danger, hein, sans le vouloir nécessairement. Mais nous, après, on part, puis eux, ils restent. Donc, ça peut être dangereux pour eux.
Non seulement ça peut, ça s'est avéré plusieurs fois.
Oui.
C'est dangereux parce qu'on va les accuser d'avoir collaboré avec l'ennemi.
Oui, d'ailleurs, mon fixeur avec qui j'ai travaillé plusieurs fois en Afghanistan, finalement, il vit en France. Il a fallu qu'il parte parce qu'il était menacé par les talibans.
Alors, pour avoir collaboré avec les Occidentaux.
Oui.
Alors, quand je vous présentais tout à l'heure, j'ai référé à ce qui a été dit de vous lorsque vous avez reçu cet ordre du mérite. Plusieurs qualificatifs étaient accolés. Téméraire, d'abord.
Non, je ne suis pas téméraire. C'est-à-dire que je suis un peu...
Faut-il l'être un peu quand même quand vous décrivez...
Oui, un peu inconscient des fois, là, honnêtement.
Vous avez commencé par dire non, pas du tout téméraire, puis finalement un peu quand même.
Un peu inconsciente.
Inconsciente.
En fait. Parce que si j'avais su à quel point le Rwanda serait difficile et à quel point je serais traumatisée, j'aurais pas été. Si j'avais su à quel point c'était difficile sous les talibans, j'aurais pas été. J'ai dit à la presse, je vais y aller moi en Afghanistan, là, sous les talibans. Puis là, je commençais à m'organiser. Mais là, je me rendais compte à quel point c'était compliqué. Parce que, comment je pourrais dire, on est beaucoup plus à brunch à brunch que les gens pensent. Tu sais, on n'est pas tout organisé, puis on va là, puis on va là, puis on se déplace.
On étant les journalistes, la profession?
Oui. Quand tu as un terrain de guerre, parce que c'est un terrain qui bouge tout le temps.
Mais par définition, il n'y a aucun plan qui tient la route.
Ben voilà. Alors là, il faut un peu comme se débrouiller sur place et essayer de juger si c'est dangereux, si c'est pas dangereux, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Puis là, moi, je consulte mes fixeurs, qu'est-ce que t'en penses? T'es-tu prêt à y aller? Puis là, on prenait une décision ensemble. Là.
Est-ce que vous aviez la peur au ventre, souvent, sinon tout le temps?
Ben,
ou comment on mate cette peur qui devient paralysante?
Quand j'arrivais, j'étais tout le temps un peu tendue, stressée. Puis après ça, on relâche. Parce que c'est pas... les bombes nous pleuvent pas là, sur la tête, là. Il y a des moments stressants et dangereux. Mais sinon, le reste du temps, j'ai une grande capacité d'adaptation. Donc, je m'adaptais rapidement. Et puis là, je prenais l'air d'aller. Puis, je faisais mes entrevues. Puis, j'envoyais mes articles. Et puis,
Je vais être brutal, mais est-ce qu'il faut qu'il y ait... Puis, c'est une formule, rassurez-vous. Mm-hmm. Là, je ne le pense pas comme ça, mais Est-ce qu'il faut que vous ayez vous-même quelques fils de débrancher pour être inconsciente comme ça? Parce que autour de vous, je l'ai lu, votre fille, elle vous en a tenu rigueur à une époque.
Je pense qu'elle m'a vu encore un petit peu.
Puis je pourrais comprendre pourquoi. Je ne sais pas si votre conjoint est le père de cette fille, mais enfin, celui avec qui vous avez vécu lors de plusieurs de ses aventures, aussi, par moments, l'a pris très mal.
Oui, il était fâché.
Au point de... fâché, de vous larguer à l'aéroport, mais vraiment... Et je peux comprendre, parce que ces gens sont inquiets pour vous.
Oui, oui.
Ils se disent, mais pourquoi ma blonde ou ma mère va aller se mettre en danger pour raconter le monde à des gens qu'on ne connaît même pas? Ben, c'est ça.
Vu comme ça, j'avoue, oui. Mais c'était plus fort que moi. Je voulais y aller. C'était important pour moi, impératif. Je ne sais pas pourquoi, là, Dr. Freud pourrait me psychanalyser. Mais ça, c'est une chose sur laquelle je n'ai jamais eu une négociation, ni avec ma fille, ni avec mon chum, qui est toujours là, ne m'a toujours pas largué malgré tout.
Mais je ne suggérais pas qu'il fallait le faire. Mais je peux comprendre.
Je pense que si j'avais été à sa place, bon, mais je me rappelle une fois...
Si j'avais été à sa place, alors pour ceux qui ne regardent pas sur YouTube, vous avez fait « wouch wouch la main
»,
vous seriez vous-même largué.
Ben, je pense que oui, mais c'est parce que je...
Parce que vous êtes une tête de cochon?
Non, un peu, mais je peux comprendre que de l'extérieur, c'est difficile à comprendre et je peux comprendre aussi l'inquiétude de mes proches.
Moi, vos parents sont-ils vivants ou étaient-ils
vivants? Ils étaient vivants à l'époque. Là. Ma mère, c'est une Italienne très croyante. Alors, elle me disait, je prie pour toi tous les soirs. Mais moi, je ne suis pas croyante pour deux sous. Là. Je me disais, bon, pourquoi pas? Je prends tout ce qui passe.
Mais ils étaient...
Et mon père était fâché aussi. Mon père m'avait dit, tu sais, tant de fois, la cruche va à l'eau qu'elle finit par se briser, quelque chose comme ça. Puis, j'en ai voulu. T'sais. Puis, ma sœur avait chicané mon père. Puis, elle avait dit, écoute, Michel est assez stressé comme ça. N'en rajoute pas. Fait que c'est sûr que ça créait des tensions. Mais pour moi, c'était non négociable. J'y allais, je partais. Et pourtant, non, c'est ça. Puis mon chum, des fois, quand je suis partie au Liban en 2006, là, on voyait à la télé les bombes qui pleuvaient sur Beyrouth et tout ça. Mais une fois, rendu à Beyrouth, on s'est rendu compte que c'était juste le quartier chiite qui était bombardé un peu autour. Là. C'est toujours, des fois, c'est toujours moins pire que les images qu'on montre à la télévision. Mais je fais comprendre cette inquiétude-là, mais pour moi, c'est non négociable. Je partais, je partais.
Je vous écoute, puis je comprends que je ne pourrais pas vous raisonner. C'était non négociable, je partais, je partais. mais ma question, c'était, est-ce que ça prend quelques câbles débranchés? Est-ce que ça prend... On est tous différemment faits. Il faut être... insensibilisé à certains risques pour s'exposer à autant de risques.
Mais non, moi, je n'étais pas insensibilisé aux risques. Parce que en dépit de tout, j'ai toujours été très prudente et c'est peut-être pour ça qu'il ne m'est jamais rien arrivé. J'ai jamais été blessée, j'ai jamais été kidnappée, j'ai été malade peut-être une fois ou deux là, parce que j'avais mangé de la viande, parce que je virais végétarienne, je faisais très attention. J'étais prudente et je consultais beaucoup. Mais à un moment donné, je prenais une décision, je disais « OK, j'y vais dans le sud du Liban ». Bon, oui, c'est dangereux, mais je pense que c'est un risque calculé. Puis j'avais comme une espèce de façon de calculer les risques complètement impressionniste.
Aléatoire, peut-être?
Oh, complètement impressionniste. Je me disais « Moi, je prends pas plus que 20 à 25 % de risques ». C'était n'importe quoi, mon affaire. Mais dans ma tête, c'était clair que c'était pas plus que 20 à 25 % de risques.
En fonction de barème totalement subjectif.
Comme ça. T'es, le vent. Mais je pense que ça marchait, mon affaire, malgré tout. Je le sentais. Puis, comme je dis, je consultais beaucoup. Puis, je parlais à mes fixeurs. Si mes fixeurs n'étaient pas d'accord, je ne le faisais pas. Je ne voulais pas les mettre à risque inutilement.
Mais vous l'avez déjà fait. Mais vous l'avez déjà fait.
C'est-à-dire?
En prison, avec un fixeur qui vous disait, Michel, puis je comprends que l'anecdote a été souvent racontée, donc je ne veux pas en abuser, mais quelqu'un qui vous dit, non, 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 c'est plus le temps d'être ici, on doit sortir.
Oui.
Et il y a ce moment où on se dit, on a ce qu'on veut comme journaliste, on a le butin. On est rendu et soudainement, le 20-25 peut monter à 50, 60, 75 % de risque qu'on est prêt à tolérer parce qu'on se dit « c'est pour ça que je suis ici, là ».
Mais cette histoire-là de prison, c'est que l'histoire que j'ai faite sur la torture, sur les soldats canadiens qui capturaient des talibans, qui les donnaient au service secret afghan, qui, eux, les torturaient, puis après, les envoyaient en prison. Alors moi, je voulais aller dans cette prison-là, à Kandahar, dans le sud du pays, et ça avait été hyper compliqué. Finalement, beaucoup grâce à Akbar, mon fixeur, on a réussi à rentrer en prison. Mais là, on était assis avec les talibans, puis je faisais l'entrevue. Et là, Akbar me dit, Michel, il faut partir. Je dis, non, attends. Non, Michel, il faut partir. Attends. Mais lui, il sentait le climat d'hostilité. Moi, je comprenais pas. Puis à un moment donné, il est comme il a comme brisé ma bulle. Il m'a dit, Michel, tu comprends pas, faut vraiment qu'on parte. Alors, j'ai dit, oh, OK. Puis là, on est parti. Là, il a fallu recommencer toutes les démarches pour retourner, parce qu'on est retourné. Mais en fait, ce que j'ai compris, c'était la journée des visites, parce que c'est les familles qui apportaient la nourriture, les couvertures, les vêtements et tout ça. Et les familles ne pouvaient pas entrer parce que nous, on était dans la prison. Alors là, il a commencé à avoir beaucoup d'hostilité parmi les prisonniers qui disaient, ils vont-tu partir? Puis ça, moi, je parle pas la langue, donc je fais pas comprendre. Mais lui, Akbar avait ses antennes. Alors, on est sorti, mais on est retourné 2 jours après.
Avons-nous été complices d'horreurs qui ont été perpétrées en donnant des prisonniers au service secret afghan?
Ça, c'est une grande question, là. Mais
en deux mots, vous, votre opinion?
Ils disent qu'ils ne le savaient pas.
Vous croyez ça?
Non.
Merci. C'est la seule réponse que j'attendais. Mais non, c'est parce que je comprends que tout est, on s'est dit, plus compliqué et nuancé. Et je ne voudrais pas jeter la pierre aux soldats canadiens et certainement à ceux qui servaient et qui pensaient servir une bonne cause. Mais
la torture était connue. On savait que les services secrets afghans torturaient. Mais est-ce que ils torturaient parce qu'ils avaient signé un accord avec le gouvernement, les Canadiens avaient signé un accord avec le gouvernement Karzai disant il n'y aura plus de torture. Donc, bon, c'était une entente de bonne foi. Les Canadiens les ont crus. Est-ce qu'ils ont été naïfs? En tout cas, ça a été toute une histoire. Ça a fait. Et d'ailleurs, on m'avait accusé de faire la propagande des talibans. Parce que c'est pour ça que c'est compliqué quand tu couvres ton propre pays.
Et qu'on est dans une guerre où il y a des intérêts nationaux.
Oui, oui.
C'est donc vrai pour à peu près tous les journalistes américains qui sont rarement dans un cas de figure où les intérêts du pays ne sont pas directement interpellés. J'ai dit téméraire, empathique.
Ben j'essaie quand je.
Êtes-vous froide?
Oh non, jamais. Il faut comme moi, ce que j'ai trouvé très difficile, c'est couvrir des camps de réfugiés, parce que les gens qui sont dans des camps de réfugiés sont là peut-être pour 6 mois, 1 an, 2 ans, 20 ans.
Des familles.
Ouais, j'ai vu de tout là dans les camps de réfugiés. Des camps de réfugiés organisés, des camps de réfugiés où les gens sont là depuis plusieurs générations, comme les camps palestiniens, les camps à la frontière de la Syrie complètement désorganisés, les camps au Liban. Et ça, c'est difficile parce que si tu donnes un peu d'argent, une famille peut vivre pendant 1 mois, mettons 5 $ américains. Mais tu peux pas donner de l'argent parce que tu vas pervertir les témoignages. Parce que les gens, ils vont dire n'importe quoi
pour 5
en échange d'argent. Mais c'est très difficile. Toi, t'es là, l'occidental, bien nourri, tout ça, et tu vois, bon, des enfants, 90% des enfants font des cauchemars, ils entendent des bombes, 95% des hommes font des dépressions. C'est très difficile, les camps de réfugiés. C'est une des choses que j'ai trouvées le plus difficile. Tu sais, 3 toilettes pour 1 000 personnes.
3 toilettes
pour 1 000? À la frontière de la Syrie, c'était complètement désorganisé. Les gens étaient à la frontière dans un état de désorganisation totale en attendant de pouvoir être acceptés en Turquie pour là pouvoir aller dans un camp qui était organisé. Parce que les camps qui sont pris en main par les groupes humanitaires comme la Croix-Rouge et tout ça, c'est bien organisé. Il y a de la nourriture, il y a les enfants vont à l'école. Mais là, il n'y avait rien. Alors, moi, ce que j'ai fait quelques fois et que je n'aurais pas dû faire, mais que j'ai fait quand même, c'est après l'entrevue, je donnais 5 $ à mon fixeur. J'ai dit, peux-tu donner? Il comprenait tout de suite. Il prenait l'argent. Moi, je me retirais. Il serrait la main au monsieur, au père de famille, puis lui donnait le 5 $, puis on partait après l'entrevue. J'ai fait ça peut-être 2-3 fois parce que je trouvais ça trop crève-cœur.
Est-ce que vous êtes en face de l'impuissance totale dans ces situations-là, c'est-à-dire... Le mieux qu'on peut faire, évidemment, comme journaliste, c'est de rapporter et d'espérer que ça peut s'aider. Raconter, je crois ça fermement, évidemment. Mais en même temps, dans l'ordre des choses, on est en face de l'indicible, avec vos meilleurs mots, et de l'impuissance.
L'impuissance est très difficile parce qu'il y a aussi assistance à personne en danger. Est-ce qu'on peut... On peut pas être... Il y a beaucoup de gens qui me demandaient avec le plus de dignité possible... J'aimerais ça aller au Canada. Je dis, c'est très difficile. Le Canada, est accepté au Canada, les interprètes afghans et tout ça. Donc, il ne faut pas que tu te mettes le doigt dans l'engrenage. Il faut que tu...
Tu ne peux pas devenir
comme acteur, mais ce que tu peux faire, parce que je leur disais, mais ce que je peux faire, par contre, c'est raconter votre histoire. Mais ça, c'est difficile. Ça peut avoir l'air froid. Puis après, toi, tu pars, puis tu écris ton histoire. Tu te nourris de la misère des gens. Et tu recraches ça au lecteur. Ça, je trouvais ça difficile. Des fois, j'avais l'impression que j'étais un vampire et que tous les journalistes étaient des vampires. C'est le tremblement de terre en Haïti. On était, je ne sais pas combien de journalistes par victime. Là. Il y avait des journalistes, des journalistes, des journalistes. Et les Haïtiens, tout ce qu'ils voulaient, c'est essayer de reconstruire, retrouver premièrement leurs proches. J'ai eu 300 000 morts, je crois. Est-ce que ma famille, est-ce que mon père, ma mère, mes enfants sont morts? Et les constructions étaient tellement de mauvaise qualité, puis il y avait des répliques. Donc ça, c'est difficile.
Pour avoir mauvaise conscience, c'est-à-dire de savoir que vous allez rentrer et eux vont rester.
Oui, même chose avec les fixeurs. Nous, on rentre, mais eux restent. Ça,
vous avez déjà craqué devant des gens que vous couvriez, devant un témoignage, pleuré parce que c'est juste insoutenable?
Bien, au Rwanda, après avoir vu tous ces cadavres-là dans mon petit village Rukara, je suis rentrée et ensuite, je couchais dans un hôpital là, qui avait été réquisitionné par l'armée Tutsi. Et puis j'avais un matelas à terre. Je me faisais dévorer par les moustiques la nuit parce que je n'avais pas encore découvert la vertu des somnifères.
Alors, pour ne pas réagir aux piqûres de maringouins.
Donc, je ne dormais pas de la nuit. Je n'avais pas dormi de la nuit. Je m'étais réveillée le matin et je tremblais. J'ai un tremblement physiologique. Je tremblais. J'étais incapable d'arrêter ce tremblement-là. Et je pleurais, pleurais, pleurais. Ça a duré 24 heures. Donc, j'étais en choc. Mais j'ai quand même fait des entrevues. Donc, je faisais des entrevues en pleurant, mais j'interviewais des gens qui pleuraient aussi. Donc, j'imagine le portrait. Mais ça a été le pire. Mais ça m'est arrivé de rentrer, de faire mes entrevues, de voir des gens qui pleuraient dans des situations désespérées. Et ensuite, à l'hôtel, quand j'écrivais, ça m'arrivait des fois de pleurer.
Les militaires, souvent, quand ils rentrent, disent que le pire, c'est presque d'être chez soi, mais incapable de transmettre ce qu'on a vu, vécu, senti. Est-ce que c'est vrai aussi pour les journalistes quand ils reviennent de monde où nos capacités d'entendement ne se rendent pas? C'est-à-dire que si on n'a pas été en guerre, on ne peut pas comprendre ce qui s'est passé là-bas. Donc, quand vous rentrez à la maison, que ce soit avec vos proches, avec la famille ou même avec des collègues au journal, c'est très difficile de raconter ce que vous avez vu et vécu.
Mais moi, je racontais au jour le jour ce que je vivais à travers mes articles. Donc ça, c'était vraiment comme une catharsis. Là. Ça me permettait de communiquer ce que j'avais vécu. Donc ça, je pense que ça aide énormément, ce que les soldats ne peuvent pas faire. Et moi, quand je revenais, j'étais contente. J'appréciais mon confort, j'appréciais mon petit café, j'appréciais le calme, j'appréciais la sécurité, j'appréciais de ne pas vivre sous les bombes, j'appréciais... Oui, j'ai pas vécu cette espèce de...
Décalage.
Oui. C'est sûr qu'il y avait un décalage, mais pour moi, c'était pas dramatique, là.
Résiliente. Je reviens toujours aux mots qui ont été utilisés ou les qualificatifs utilisés. Parce que quand on a amorcé la conversation, vous avez parlé de vieillir dans ce métier et du prix à payer dans les os, dans le système nerveux.
Oui. C'est sûr que les vestes par balles, moi, je n'étais plus capable de mettre une veste par balle. Moi, je suis petite, hein? Fait que, une veste par balle avec le casque, ça peut peut-être peser 20 livres. Tu te promènes avec ça. Le stress, les voyages en avion, les nuits blanches dans les avions, dormir à terre dans les aéroports, stressé. Mais c'est sûr que ça use. C'est sûr que moi, ça m'a usé. J'ai eu des hernies discales, mais j'ai vu des physios, j'ai fait des exercices, je nage, Dieu merci.
Mais ça vous a entamé.
Ah, ben ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Il y a un prix à payer. Oui, j'ai vieilli en accéléré à cause du stress, à cause des vestes par balles, à cause des avions tout croche, dormir n'importe où. La pression, le stress, c'est sûr.
Le regrettez-vous des fois?
Non.
Parce que il y a aussi une addiction à ce qui nous fait mal, à ce qui nous fait souffrir et au stress.
C'est un mot que j'aime pas, addiction, parce que j'en ai vu des gens qui carburent à l'adrénaline. Moi, je n'aime pas avoir peur. C'est une chose que je déteste. C'est un sentiment que je déteste, la peur. C'est pour ça que...
Votre fille dirait autrement, peut-être. ou votre conjoint dirait, ben, pour quelqu'un qui déteste la peur, t'as mal choisi ton métier.
Ouais, mais j'ai comme des comptes à régler avec la peur, mais ça, c'est une autre histoire. Mais quand j'arrivais, j'étais toujours tendue. Mais une fois que j'étais arrivée, puis que j'avais écrit mon premier article, puis j'avais cassé la glace, puis que je m'étais adaptée, comme je vous dis, je m'adapte rapidement. Là, ça allait bien. Là, j'étais comme sur mon air d'aller. Des fois, ça pouvait arriver que j'avais peur, mais je ne peux pas dire que j'avais beaucoup peur. Non, je ne suis pas une personne qui a peur facilement.
Mais quels sont les comptes à régler avec la peur, alors?
Oh, c'est compliqué.
On vit tous avec la peur. Moi, je pense que c'est ce qui nous tenaille le plus. Mm. Je cite souvent cette phrase qui m'a un jour illuminé. What's on the other side of fear?
Mm.
La peur est souvent des fois plus importante que ce qu'elle nomme même pas.
Ben, je pense que la peur ultime, c'est la peur de mourir. Alors, donc une fois qu'on a été confronté à cette peur-là, on n'a pas envie de la revivre. Dr. Freud, encore une fois, on a tendance à aller se replonger un peu dans la même situation comme pour régler les problèmes avec la peur. Je ne sais pas, là, c'est de la psychanalyse à Saint-Saëns, ça ne vaut rien ce que je dis.
Non.
Mais c'est un peu ça, là.
Et vous avez eu vraiment peur de mourir?
Oui. Et ça, c'est un sentiment extrêmement désagréable. Et je serais prête à tout vendre ma mère, que Dieu ait son âme, pour ne pas revivre cette peur-là. Donc, je n'aime pas avoir peur. Et c'est pour ça que je suis prudente sur le terrain, que les gens regardent, elle était en Syrie, en Afghanistan, et tout ça, mon Dieu, est téméraire. Non, je ne suis pas téméraire. Tu sais, je suis restée quand même, comme je dis, prudente. J'ai fait attention. Tu sais,
prête à vendre ma mère pour ne pas avoir vécu ça?
Pour ne pas revivre.
Pour ne pas revivre
cette
ça.
Cette peur-là.
Est-ce que ça s'efface?
Non. Je pense que ça reste inscrit dans le cerveau, c'est inscrit. Non, on vit avec ça. Et je pense que ça nous diminue, mais on vit avec ça.
Ouais. Ah, ça nous diminue?
Oui, je pense que oui, parce que on perd notre innocence, là. C'est quand on sait qu'on peut mourir, donc qu'on peut être vulnérable, hein, on perd une certaine innocence, là. Je pense que tous ceux qui ont été attaqués ou qui ont failli mourir vivent peut-être ce même sentiment-là de vulnérabilité. Parce que quand on est jeune, on se sent invulnérable et il ne nous arrivera jamais rien.
C'est
le privilège de la jeunesse.
C'est à la guerre que vous avez appris.
Oui, entre autres. Là.
Que vous alliez peut-être un jour être exposé à votre vulnérabilité.
Oui, c'est ça.
Mais alors, le plus tragique, c'est d'avoir eu peur pour les bonnes raisons ou de s'être fait voler son innocence?
Bien, c'est une combinaison des deux, là. À partir du moment où on s'est volé notre innocence, c'est-à-dire qu'on ne se promène plus dans la vie de façon où rien ne peut nous arriver, bien, quand on perd ça, bien, on devient un peu plus...
Moins de légèreté.
Oui, plus prudent, même si je me suis jeté tête baissée des fois dans des conflits, là. En tout cas, c'est très contradictoire, mais pour moi, ça tient.
C'est l'essentiel, mais ça se guérit,
ça se guérit, je ne sais pas. Ça reste inscrit dans notre cerveau. Reptilien.
Mais c'est là que ça se passe. Hein.
C'est ça.
La peur, elle n'est pas raisonnable.
Ouais,
elle est pas. On ne peut rien faire quand on est tenaillé par la peur. Avez-vous été ambitieuse pour vous exposer à tout ça? Puis pour moi, je dis souvent la même chose, mais l'ambition n'est certainement pas un défaut. Quand elle s'exprime pas aux dépens des autres, avez-vous été ambitieuse ou il y avait autre chose? C'est-à-dire que ce besoin de témoigner était votre contribution, peut-être?
Je pense pas qu'on peut dire que je suis ambitieuse. Je me suis jamais vue comme quelqu'un d'ambitieux. T'sais, j'ai jamais eu plan de carrière.
Parce que modestie était un des autres adjectifs associés. On peut être modeste et ambitieux, je pense que d'ailleurs c'est réconciliable.
Oui, mais mon ambition, c'était d'aller sur le terrain. D'aller sur des terrains où comme quand j'ai vu tous les cadavres, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette image-là, en 94, quand le génocide a commencé, on voyait des centaines de cadavres dans les rivières là, qui flottaient. Et on sentait vraiment que quelque chose d'extrêmement grave était en train de se produire au Rwanda. Ben, c'était plus fort que moi, il fallait que j'y aille. Quand les talibans ont pris le pouvoir et qu'on a vu leur délire religieux en train avec des chars d'assaut en train d'écraser des bouteilles d'alcool, de briser, de t'arracher des films et tout ça, c'était plus fort que moi. Je me suis dit, il faut que j'y aille. Mais c'était pas dans un plan ambitieux parce que je veux devenir une journaliste ou de guerre. Non, ça c'était pas ça. Mon moteur, c'est je veux y aller. Il faut que je sois là. Je vais y aller. Là, j'allais voir mes patrons. Je leur disais, hey, moi, je vais aller au Rwanda. Ils me disaient oui. Fait qu'ils me faisaient vraiment confiance. J'ai été chanceuse, là.
ces vins ou tous ces petits témoignages, toutes ces petites fois où on ne peut pas plaider l'indifférence parce qu'on ne saurait pas, c'est utile finalement. Parce que c'est ça, s'il n'y a personne pour rapporter, on peut dire qu'on ne sait pas. À chaque fois qu'on a les indices qu'il se passe quelque chose, on ne peut pas plaider l'innocence. Donc, est-ce que le travail est vain au total ou au contraire, vous pensez que le jeu en vaut la chandelle? Le jeu en vaut la chandelle.
Bien, c'est sûr. Il faut toujours témoigner de ce qui se passe. Il faut toujours regarder la guerre en Syrie. C'est devenu tellement dangereux qu'à partir de 2013, 2014, je pense entre autres là, à tous les kidnappings de James Foley, à qui j'avais parlé. Donc, sa mort m'a vraiment bouleversée. Nicolas Henné, qui s'est fait... James Foley a été décapité, le journaliste américain. Il a été enchaîné. Nicolas Henné, un journaliste français vraiment super compétent, arabophone, il parle en arabe. Il a été enchaîné avec James Foley. Lui aussi a été kidnappé. Lui aussi, je lui avais parlé. Ils m'ont aidé, ces gars-là. Quand j'y étais, comme je dis, je demande beaucoup l'aide. Ils m'ont aidé dans la logistique pour savoir comment rentrer en Syrie et tout ça. Donc, la Syrie est devenue un terrain tellement dangereux que les salles de rédaction ne voulaient plus envoyer leurs journalistes en Syrie. Et il y a un journal britannique, je ne me souviens plus lequel, peut-être The Independent, a dit aux photographes pigistes, parce que c'est à peu près que des pigistes, si vous revenez avec des photos de la Syrie, on ne vous les achètera pas parce qu'on ne veut pas encourager. Ça, c'est trop dangereux. Je pense que c'était le Sunday Times. Et donc, on a arrêté de couvrir la Syrie. Donc, on a abandonné la Syrie. Et le pays s'est comme refermé. Et s'il n'y avait pas eu les Syriens qui prenaient des vidéos puis qui essayaient d'envoyer ça sur le net et puis qui témoignaient, ben on ne
saurait rien.
Mais non. Mais ça, c'est terrible. Ça, c'est la pire tragédie qui peut arriver. De cesser d'aller sur le terrain et de témoigner de ce qui se passe. Et c'est un peu ce qui est arrivé en Syrie.
Est-ce qu'il vous arrive encore de rêver ou de cauchemarder ou vous êtes complètement sevré?
Non, ça m'arrive des fois. C'est toujours les rêves récurrents. T'es pas capable, t'arrives pas.
D'impuissance.
Oui, mais c'est les rêves comme avant de rentrer scolaire. T'arrives pas à t'habiller, t'arrives pas à marcher, t'arrives pas à avancer. Bon,
c'est pas des rêves de guerre.
C'est
pas des rêves de guerre.
Non, mais des fois ça peut m'arriver. Mais c'est rare. Mais je vais éviter de voir des films trop. Avant, j'étais capable de voir des films très durs, mais plus maintenant. Plus maintenant, je détourne les yeux, je me dis non.
Le système nerveux, donc, peut en prendre.
Oui, j'en ai eu assez. Je suis pas capable. Je ne veux pas, je sens que je suis sursaturée d'images, de cadavres, de... Non.
Au-delà d'une certaine limite.
Oui, mais c'est de plus en plus de films que je vais pas voir. Je me dis, ou de livres que je ne veux plus lire. Et je me dis, ah, tiens, je vais être sursaturée. Une autre chose aussi, moi qui ai été capable de faire ma valise en une demi-heure, maintenant, quand je fais une valise, là, je tourne autour, puis je procrastine. Et ça peut me prendre une journée faire une petite valise. Parce que c'est probablement que ça vient de ça. T'sais, j'ai tellement souvent fait ma valise vite que maintenant, faire une valise, je pense que ça fait partie du processus de vieillissement, d'usure, mon incapacité à boucler une valise rapidement.
Le dernier article pour la presse, c'était justement tout ça. Deux mots. Vieillir,
oui.
Virgule, partir.
Oui. Partir de la presse. Oui.
Ou partir à l'étranger. Oui. Ou ne pas partir à l'étranger.
Mais en fait, c'était mon intention, c'était partir à la retraite. C'est parce que je suis plus capable. Parce que c'est trop. J'avais 64 ans quand j'ai pris ma retraite de la presse, là, quand même.
Donc, pas vieille du tout.
Ben...
En année de correspondant, peut-être ça compte double ou triple, comme les années de chien.
On peut peut-être le multiplier par mon numéro d'assurance sociale, mais mettons que ça fait ça beaucoup d'années, je trouve. Mais je l'ai senti, là, que j'étais... Mon dernier voyage, ça a été en Arabie Saoudite, et ça faisait deux ans et demi que j'attendais le visa. D'un coup, pouf! Le visa est arrivé. Alors, j'ai dit, j'y vais. Mais j'avais vraiment des hernies discales, là. Je me suis dopée, là, j'ai pris des Advil, des Tylenol, des antidouleurs. J'ai passé 2-3 semaines, je ne sais plus combien de temps je suis partie. Puis quand je suis revenue d'Arabie Saoudite, c'était en décembre, j'ai pris l'avion Riyad-Paris, ça allait. Paris-Montréal, j'étais plus capable. J'avais beau prendre des Advil, des antidouleurs, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. J'avais tellement mal. J'avais été voir l'agent de bord. J'avais dit, si je ne peux pas me coucher ici, là, maintenant, sur le plancher, je vous dis, je me jette en bas de l'avion. Et je devais avoir le teint tellement livide. Je me dis, non, couchez-vous.
Ils vous ont cru.
Alors, oui. Ah, ben, je devais avoir. Et là, quand je suis arrivée, je suis tombée dans les bras de mon chum. J'ai dit, je ne suis plus capable. Puis là, j'ai été voir mon patron après. J'ai dit, je prends ma retraite. Je devais aller en Afghanistan et puis j'ai pas été parce que mon corps a dit c'est assez.
C'est certainement pas votre fille ou le conjoint qui ont.
C'est mon corps.
Si je comprends bien, c'est que si lui avait pas déserté.
J'aurais continué. Mais oui.
Mais oui.
Et maintenant, je suis une grand-mère et je suis en amour fou avec mon petit-fils qui a 2 ans.
C'est peut-être lui qui aurait su vous retenir.
Peut-être.
Michel Ouimet, ça a été un plaisir.
Merci.
Bon retour à la maison.
Oui, merci. À pied.
Ben voilà qui complète l'émission pour cette semaine. À la réalisation Lola Mal, c'est Marianne Grenon qui était avec nous pour la recherche et M. Bégin qui est responsable de la musique. Stéphane Bureau, microphone. Notre invité encore une fois était Michel Ouimet. Merci, à très bientôt.